On va prendre l'évangile de Luc, chapitre 10. On va lire versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » On va s'incliner. Merci Seigneur de ce chant, Seigneur, que Renata vient de chanter. Merci Seigneur parce que c'est vrai que tout vient par grâce. Seigneur, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Seigneur, indigne de tes grâces. Et Seigneur, nous avons soif de ton eau vive, mais nous n'avons pas d'eau vive. Seigneur, ça vient de toi. Alors Seigneur, donne-nous encore ta grâce. Donne-nous encore ta grâce. Encourage-nous dans ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dans cette histoire que Luc nous relate, on voit deux sœurs qui ont une attitude différente dans la présence de Jésus. C'est Marthe qui a ouvert la porte de sa maison, sa sœur était présente, et puis il y a un problème entre ces deux sœurs, ou au moins dans le cœur de l'une d'elles. Et avant d'expliquer ce que dit le texte, en restant attaché au texte, il est bon de se pencher un peu sur la personnalité de Marthe. Déjà son nom en dit long, puisque Marthe signifie dame, maîtresse. Maîtresse et Marie, Marthe était vraiment la maîtresse de maison par excellence. Une femme qui était active, zélée, attentive aux besoins de ses invités. Et si le Seigneur nous a donné le texte ici, c'est pas pour reprendre toutes les femmes qui sont actives, zélées, entreprenantes pour le Seigneur, parce qu'il est évident qu'en Marthe, il y a plein de belles qualités, des grandes qualités. Quand vous lisez la description de la femme vertueuse en Proverbe 30, on va pas le prendre, mais on lit qu'elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle pense à un champ, elle l'acquiert, sa lampe ne s'éteint point la nuit, toute sa maison est vêtue de cramoisie, elle fait des chemises, des levants, elle livre des ceintures aux marchands. Donc c'est une femme active, entreprenante, efficace, prévoyante, travailleuse, elle est vertueuse. Et en cela, eh bien, Marthe, elle est vraiment une femme exceptionnelle. Elle agissait, semble-t-il, de cette manière dans son foyer. Donc c'est une grande qualité que d'être travailleuse, prévoyante, Dieu nous l'enseigne, mais pourtant il va aussi nous enseigner autre chose dans le texte. Et Jésus voulait que Marthe développe une dimension de la vie chrétienne qu'elle ne connaissait pas encore. Jésus ne voulait pas que Marthe devienne Marie, dans le sens où elles étaient différentes, elles avaient une personnalité différente, certainement, un caractère aussi différent. Et il ne s'agissait pas de faire deux Marie de Béthanie identiques, pareil. Mais Marthe devait comprendre qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Il y avait une dimension qui lui échappait. Et peut-être que quelqu'un se dit qu'il sait bien qu'il peut être comme Marie. Et donc, il le fait certainement, je ne sais pas. Mais en fait, c'est quelque chose que l'on apprend et c'est quelque chose que l'on réapprend. Parce que, souvent, on retombe dans une attitude de Marthe, affairée, oubliant l'essentiel. Et c'est souvent le cas dans le début de notre vie chrétienne. peut-être parce qu'on ne sait pas toujours comment plaire au Seigneur, parce que finalement, on est tous déjà passés, ou on repasse, et bien parfois, par une attitude comme celle de Martha. Et on sait que Martha et Marie, elles aimaient profondément le Seigneur, toutes les deux. Elles aimaient le Seigneur, mais leur amour ne se traduisait pas de la même manière. Marie, elle s'est mise à ses pieds, elle l'a écouté, et puis Marthe, elle a essayé de préparer le meilleur repas pour ses invités et pour Jésus qui était là. Peut-être elle a couru au puits, aller chercher de l'eau, elle a pétri la pâte, elle avait peut-être un agneau, je ne sais pas, elle a apprêté l'agneau. Hein. Parce que Marthe voulait plaire autant que Marie au Seigneur, mais Marthe voulait le faire par ses œuvres. Mais on ne peut pas plaire au Seigneur par nos œuvres. C'est pas possible. Avant notre conversion, on a compris que le salut n'était pas par les œuvres, mais était par la grâce. Renata vient de chanter. Et maintenant qu'on est converti à Dieu, eh bien les choses n'ont pas changé. C'est toujours par la grâce. C'est pas par nos œuvres que on peut plaire au Seigneur. On pourra jamais plaire au Seigneur par nos œuvres. Et j'insiste sur le nom, hein, nos œuvres. Parce que nos œuvres, elles sont souillées. Elles l'étaient avant la conversion, et puis elles le sont toujours après notre conversion. Nos œuvres, elles sont souillées. Si Dieu ne nous a pas demandé quelque chose, s'il ne nous y invite pas, s'il ne nous pousse pas, si ce n'est pas sa volonté, eh bien on n'est pas en train de lui plaire en faisant nos œuvres. Parce que finalement, on peut faire beaucoup d'œuvres, et même des œuvres qui sont spirituelles à nos yeux, hein, peut-être parce qu'elles contiennent le mot Bible, ou le mot Évangile, ou un verset. Et on peut parcourir monts et vallées, aller à droite, à gauche, faire ceci, cela. Mais si ce n'est pas les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous, eh bien, à quoi ça sert, hein? Sinon, à peut-être nous glorifier d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela et cela. Et le Seigneur nous a bien mis en garde contre tout ce que nous bâtirions sur un autre fondement que celui de Jésus-Christ. Et certaines de nos œuvres, eh bien, sont comme du bois, sont du foin, du chaume. Et Paul nous l'a dit, le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Et certaines de ces œuvres, eh bien, seront consumées, tandis que d'autres, eh bien, seront conservées, celles qui seront faits dans la volonté de Dieu, avec la force du Seigneur, et bien celles-là vont être reconnues, elles vont être récompensées par le Seigneur. Et au tribunal de Christ, là où le Seigneur va inspecter nos œuvres, il va pas tenir compte de toutes les fois où on a agi comme Marthe dans notre propre volonté. Et peut-être qu'on sera déçu parce qu'on aura fait ceci, cela pendant X jours, parfois X années. Et le Seigneur me dira peut-être, mais je ne t'ai jamais demandé ça, non. C'est toi qui as voulu faire ça. C'est tes œuvres et ce n'est pas les miennes. Et puis tout sera consumé et puis il restera rien. Parfois les œuvres ne sont pas forcément des grandes œuvres, des grands sacrifices. Hein. Parfois c'est juste des petites choses. On se dit, c'est pour la gloire de Dieu. Paul a mis en garde les Colossiens. Contre cela, hein, il a dit, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Et parfois, on peut s'imposer des privations. On se dit comme ça, je vais être plus proche de Dieu, plus spirituel, mais c'est sans valeur réelle et ça sert à satisfaire la chair. Peut-être que le Seigneur nous dira un jour, mais je ne t'ai jamais demandé ça. Tu t'es privé, tu t'es vraiment privé au maximum pour ne pas faire ça et moi je ne t'ai jamais demandé ça. 1 Samuel 15, verset 22. Dans Samuel 15, verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » et faire un sacrifice ou faire des sacrifices qui est à la portée de tous les hommes. On pouvait le faire avant notre conversion, et puis eh bien, on peut continuer à faire des sacrifices après notre conversion. Et c'est pas là que l'Éternel trouve du plaisir, hein. C'est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole, c'est mieux que la graisse des bébés. Et en fait, Marthe, là, eh bien, c'est pas soucié de la parole du Seigneur. Elle n'était pas buvant les paroles du Seigneur. Là, c'était pas la parole écrite, mais c'était la parole qui parlait, quoi. Hein. Elle s'est pas souciée. Mais elle était en action, elle était en train d'offrir son sacrifice au Seigneur. Et pour plaire au Seigneur, il faut la soumission et il faut l'obéissance. Ça passe par une oreille qui écoute. Et Marthe voulait lui plaire, mais elle ne voulait pas prendre le temps de l'écouter. Alors que Marie, eh bien, semble-t-il, avait compris, eh bien, cette importance de l'écouter. Regardez, verset 39. Marthe avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Donc Jésus était en train de parler, c'était la parole de vie qui était en train de parler, il y avait des fleuves qui coulaient sur les auditeurs, hein. Et Marie, elle était là, elle ne voulait pas perdre une seule miette de ce que le Seigneur était en train de dire. Tout de suite, elle s'abaisse au pied du Seigneur, et là on voit une position de repos, de confiance, de soumission. Elle buvait la parole, elle rassasiait son âme de vérité, et ce n'était pas le moment de s'affairer, mais c'était le moment d'écouter. Et combien c'est facile aussi pour nous de nous agiter et de ne pas écouter. Combien nous aussi, on se jette parfois dans la journée, avec toutes les activités, sans un moment de silence, un moment de prière, un moment de lecture, méditation de sa parole. Et Marthe avait certainement cette habitude. Et à la fin de la journée, on se dit, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai pas prié, Seigneur. C'est vrai, j'ai même pas levé les yeux vers toi. J'ai même pas ouvert ta parole. Marie, écoutez sa parole. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour écouter. Et il y a un temps pour s'activer. Et on se dit souvent, hein, je vais faire ça, c'est urgent. Et puis ça, et puis après ça. Puis s'il me reste un peu de temps, après j'irai. Et on sait que ça marche pas. Ça marche jamais. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et ensuite, nous verrons tout le reste. Et tout le reste se passe beaucoup mieux une fois qu'on a fait ça. Le tout, c'est de savoir mettre les bonnes priorités. Et Marie a su mettre la bonne priorité parce qu'elle avait soif d'écouter la parole de Dieu. Elle voulait obéir et lui plaire de cette manière. On a une sœur dans l'église qui s'appelle Janine, une dame âgée. Son mari vient de décéder. Et dans le même temps, elle a appris qu'elle avait une tumeur sur le palais. Donc, bon, l'histoire est un peu compliquée, mais... Donc, elle a commencé à voir les médecins, ils ont fait toutes les radios, etc. Finalement, elle est allée opérer, ils étaient d'accord pour l'opérer. Et ils ont fait l'ablation du palais, ils ont enlevé le palais. Donc, elle ne peut plus se nourrir par la bouche. Elle se nourrit par l'estomac avec quelque chose qui rentre directement. Hein. Et donc, elle n'a pas mangé depuis début juin, je crois. Pas de goût depuis début juin. Hein. Et je crois que c'était en juillet où je suis allé la voir. Maintenant, elle a commencé de la radiothérapie. Et on espère que ça va bien se passer. Elle termine dans une quinzaine de jours. Et donc, je suis allé la voir en juillet dans une maison de repos, hein, convalescence. Hein. Et on venait lui autoriser à prendre café au lait. Elle avait besoin d'un petit café au lait, comme ça, essayer de le boire. Vous imaginez le plaisir d'avoir son petit café au lait par jour, en sachant qu'elle mangeait rien, elle buvait rien. Terrible. Et donc, j'étais avec elle, et j'étais en train de lui expliquer l'étude biblique qu'on venait de faire quelques jours auparavant. Et puis, la personne lui amène son café au lait, alors elle pose son café au lait à côté. Puis bon, je parle, j'explique les écritures, et puis d'un seul coup, mes yeux se posent sur le café au lait, et je lui dis, mais tu sais, tu devrais boire ton café au lait, il va refroidir. Elle m'a fait ça. Ça sortait de son cœur. Ça sortait de son cœur. Et moi, non, ça va. Je me dis, mince. Nous, parfois, on court vers notre café au lait. Hein. Et elle,
qui en buvait un par jour et qui n'avait que ça, non, c'est important, voilà, c'est les paroles du Seigneur. Et ça montrait son attachement vraiment au Seigneur, ça m'a vraiment touché. C'est la même attitude qu'a eu Marie dans la maison de sa sœur Martha. Il n'y a plus rien qui comptait, voilà, c'était son Seigneur. Verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et là, il est intéressant de voir l'attitude de Marthe, parce qu'elle est en train de juger sa sœur. Elle, au moins, elle fait ce qu'il faut faire, hein, tandis que sa sœur, elle, elle est paresseuse, elle ne fait rien. Et là, on retrouve une attitude caractéristique d'un enfant de Dieu qui investit à 100% dans ses œuvres charnelles. Travaille pour le Seigneur, elle sert son cœur, c'est tout son cœur, hyperactif. Hein. Ou quand on voit son frère ou sa sœur qui n'en fait pas autant que nous-mêmes. Alors immédiatement, eh bien, on juge son frère, on juge sa sœur. Hein. Et ça, c'est malheureusement le cas quand on se perd dans ses œuvres propres à soi. Hein. On tombe en jugeant nos frères et sœurs pour ce qu'ils ne sont pas en train de faire. Lui au moins il fait ceci, il fait cela. Lui au moins il est ici, il est là. Cela ne te fait-il rien que ma sœur ou mon frère me laisse seul pour servir, Seigneur? Est-ce que ce n'est pas une question, quelque chose qui s'est passé par notre esprit, hein, dans un zèle qui n'était plus du Seigneur? Ce qui est incroyable, c'est que Marthe reprend aussi le Seigneur Jésus. Seigneur, est-ce que ça ne fait rien? Ça ne te fait rien? Non, mais tu vois pas, non? Donc, elle est en train de juger Jésus parce qu'il n'est pas en train de faire ce qu'il devrait faire en tant que maître. C'est lui le maître. Et là, on se dit, mais heureusement que le Seigneur, il n'est pas impulsif ou voilà. Il ne réagit pas vite comme ça. Hein. Il est aimant, miséricordieux avec nous. Parce qu'il est vrai que dans notre manque de sagesse ou de maturité, hein, on peut parfois avoir une attitude qui est un peu hautaine vis-à-vis du Seigneur. Hein, comme si nous, on pouvait le juger, lui qui nous donne à tous la vie, la respiration et l'être. Et on voit que c'est encore une fois l'histoire de la paille et de la poutre. Hein. Marthe pense que Marie a une paille dans son œil. Alors elle demande au Seigneur, Seigneur, mais ôte-lui la paille qu'elle a dans son œil, tu vois pas? Et le Seigneur lui répond, mais Marthe, c'est toi qui es une poutre dans ton œil. Verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, ne t'inquiètes-tu pas? Tu t'inquiètes, pardon, et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il est vrai que parfois, on est en train de prier, Seigneur, viens en aide à mon frère, il a une paille dans son œil. Et on ne réalise pas que peut-être notre plus gros problème, bien, c'est nous qui l'avons avec une poutre dans notre œil. Alors il faut bien faire attention en matière de jugement, parce que ça se retourne vite contre nous. Hein. C'est en ôtant d'abord sa propre poutre hein, qu'on devient à même d'ôter la paille dans l'œil de notre frère. Hein. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais Marthe, au lieu de se juger elle-même, elle s'est mise à juger sa sœur. Et la réponse du Seigneur nous révèle quelque chose d'important. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Deux choses. Et vous l'avez peut-être expérimenté vous-même. Hein, quand on se lance dans nos œuvres, de manière charnelle, ça veut dire que c'est pas comme ça que le Seigneur veut que l'on fasse, ou c'est pas les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Hein. Il y a deux choses, il y a l'inquiétude et il y a l'agitation. Tout d'abord on s'inquiète, on commence à ne pas être tranquille, il n'y a pas de paix, et c'est normal parce qu'on est tout seul, on est dans ses œuvres. Et puis ensuite, il y a de l'agitation, on se fatigue. Quand on agit charnellement, il y a souvent beaucoup de fatigue parce qu'on déploie beaucoup d'énergie, finalement pour pas grand chose. Peut-être qu'on fait beaucoup de choses comme Marthe, mais qu'est-ce qui reste au final? Et le Seigneur a dit ensuite à Marthe, verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée.
une seule chose est nécessaire.
C'est le Seigneur qui le dit. Il n'y a qu'une seule chose qui compte réellement et qu'il faut mettre en avant et avant toutes les autres choses, c'est notre relation personnelle avec Jésus. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est de notre relation avec le Seigneur que découle après toutes les autres choses. Et dans la vie chrétienne, on commet souvent l'erreur de chercher à plaire à Dieu par nos propres forces et par nos œuvres. Et on met l'accent sur faire, faire, faire pour Dieu. Et on pense que si on fait ceci, si on fait cela, eh bien on va plaire à Dieu, et Dieu en retour va nous bénir. Et donc on oriente toute notre vie sur ce que nous pourrions faire pour Dieu, pour lui plaire. Et puis on se lance corps et âme dans nos œuvres que l'on pense être spirituelles. Mais une seule chose est nécessaire, dit le Seigneur. C'est d'orienter notre vie vers lui. C'est de se concentrer sur Christ, de le chercher lui. C'est-à-dire entretenir une relation intime et étroite. John nous en parlait, une relation qui est réelle avec lui. Et puis à ce moment-là, Dieu agit dans ma vie, il me transforme et il me conduit dans les œuvres préparées d'avance. Donc les œuvres, elles découlent de notre relation avec le Seigneur. En fait, c'est la conséquence logique de notre relation avec le Seigneur. C'est lui qui nous inspire, qui nous conduit, qui nous dirige et qui nous pousse dans ses œuvres. Et ça n'empêche pas d'avoir la tête, parfois il y a des personnes qui ont la tête en ébullition et pleine d'idées, c'est pas mon cas, hein. Mais il y a des personnes comme ça, quoi. Elles ont 10 idées à la minute, hein, avec des envies de vraiment hyperactivité, hein. Mais quand on le cherche et qu'on prend le temps de l'écouter, en priorité avec le désir d'obéir, hein, eh bien il est libre de nous arrêter, et dire non, ça c'est pas la peine. D'accord, t'as plein de bonnes idées, mais ça c'est pas la peine. Et puis de nous orienter dans ce qui vient de lui. Il y a peu de temps, et une sœur peut-être certains la connaissent, s'appelle Jacqueline, dans notre église, et on avait sorti le lendemain, un pique-nique à l'extérieur, et puis je l'ai au téléphone, elle me dit, écoute, je crois que je vais pas venir parce que j'ai un problème, j'ai mon voyant d'huile qui s'allume. Donc, je dois me manquer de l'huile, hein. Soit j'essaye de trouver un garage demain matin si c'est ouvert, soit eh bien, je ne viendrai pas. Et moi, tout de suite, je me dis, oh, ben, je viens, j'ai un bidon d'huile là, je vais venir chez toi, et je vais te remettre de l'huile, il n'y a aucun problème, et tout ça. Et je ne me suis pas soucié du Seigneur, hein. J'avais envie de faire ma BA, voilà. J'avais envie d'aider ma sœur Jacqueline de tout mon cœur, hein. Et il y avait un petit truc qui me disait, non, c'est pas ça. Arrivé sur place, je m'aperçois qu'elle a une essence et moi j'ai un diesel. Donc c'est pas la même huile, et je ne m'y connais pas en mécanique, mais j'ai posé lui mettre de l'huile diesel, et finalement j'y suis allé pour rien. C'est pas forcément loin, hein. Un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, mais pour rien, quoi. Pour rien, je suis resté une minute. Et j'en ai déduit, je me dis, ben ça c'est moi qui ai voulu le faire, quoi, hein. C'est pas le Seigneur qui m'a poussé, lui au contraire, il voulait me retenir, me dire, mais c'est pas la peine. Ses œuvres, elles sont parfaites. Et nos œuvres, elles sont imparfaites. C'est plutôt un excès de zèle, là, de ma part, une œuvre de la chair. Mais c'est souvent comme ça, quand on ne prend pas le temps de chercher la volonté du Seigneur. On se lance dans nos œuvres. Et notez que j'ai fait le choix d'y aller, et Marthe, elle a choisi aussi de s'occuper des soins domestiques. Pendant que Marie, elle choisissait d'écouter le Seigneur Jésus. Et en fait, c'est une question de choix. Qu'est-ce qu'on veut choisir? On peut choisir de faire ses œuvres, nos œuvres, ou bien on peut choisir de chercher le Seigneur et de faire ses œuvres à lui. Et pour conclure, on dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et Marie, elle était en train de faire le bon choix parce qu'elle avait les yeux fixés sur le Seigneur. Ses pensées étaient captivées par la parole du Seigneur. Elle était au bénéfice de tout ce qu'elle était en train de recevoir. Et ce n'était pas du temps perdu que de rechercher le royaume, la justice de Dieu en premier. Et Marie nous le montre, on la voit à ses pieds, assise, elle ne fait rien contredire sa communion avec le Seigneur, mais on voit que Marie, ce n'est pas une femme inactive. Elle sait aussi agir et elle sait faire des œuvres qui plaisent au Seigneur. Et on en a la preuve en Matthieu 26, versets 6 à 13. Matthieu 26, versets 6 à 13. Quand Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : à quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Une œuvre peut-être de la chair, certainement. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et là, on voit cette femme, c'est Marie. Elle a probablement pris tout l'argent qu'elle avait pour s'acheter ce vase avec ce parfum de grand prix. Et ça, c'était toute l'expression de son amour pour le Seigneur. Elle a versé le parfum sur la tête de Jésus. On lit dans un autre évangile, on l'a mis sous ses pieds. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux, si bien que la maison était remplie de l'odeur du parfum. Et Jésus dit, elle a fait une bonne action, une bonne œuvre à mon égard. Et il explique, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et là, dans un autre évangile, la même histoire, on lit que Marthe, c'est dans Jean, Marthe était encore en train de servir là. Et Marie, ici, elle était en train de faire une bonne œuvre à l'égard du Seigneur Jésus. C'était une œuvre qui était inspirée, une œuvre qui était préparée d'avance, une œuvre qui glorifiait le Père, si bien que Jésus l'a souligné et il a permis que cette bonne œuvre soit racontée encore aujourd'hui. Et le texte ne nous dit pas, mais on peut supposer que Marie avait commencé à entrevoir eh bien, ce qui allait se passer pour le Seigneur, sa mort. Peut-être parce qu'elle avait justement passé du temps avec le Seigneur à l'écouter. Et là, on la voit faire une œuvre merveilleuse, un sacrifice, mais un sacrifice que Dieu agrée. Un sacrifice qui lui est agréable. Et nos œuvres charnelles, elles nous attirent l'inquiétude. Elles nous attirent la fatigue. Et puis, elles nous attireront la honte quand elles seront consumées et qu'il ne restera plus rien. Tandis que les œuvres préparées d'avance, hein, afin que nous les accomplissions, celles-là, elles vont engendrer la louange. Elles vont être remarquées comme de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, parce qu'elles ont été fondées sur Jésus-Christ. Hein. Et c'est à nous de choisir à quelles œuvres nous aspirons. C'est un choix, celle de Marthe ou celle de Marie.
Ce cantique qui s'intitule « Cherchez d'abord ». Nous aurons eu lieu, on pourrait peut-être chanter ce cantique, si vous voulez bien. C'est le combien ?
74.
Il est vrai que notre grand dilemme et notre grand problème aujourd'hui, c'est de croire que nous existons parce que nous faisons des choses. C'est vraiment ça. Et nous existons justement parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. C'est ça. Je crois que les choses seraient vraiment différentes dans nos vies et si on passait plus de temps encore avec Christ. Je me reconnais bien dans ces mots, sacrifiant souvent ma communion avec Dieu, mon intimité avec lui, y a des choses que je crois plus importantes. Hein. Alors chantons. Sermon du Seigneur sur l'inquiétude. C'est ça, non? Et donc, comment vaincre nos inquiétudes? Eh bien, passons plus de temps avec le Seigneur. Alors, chantons la suite.
L'homme vivra par le
c'est la puissance.